Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, vous écoutez La voix de l'Indonésie à Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie encourage la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Lipi a publié l'état des récifs coralliens en Indonésie. Le 9e symposium de PPI du monde avec le thème de la numérisation. La politique maritime indonésienne sera lancée lors de la conférence de l'ONU. Le ministre de l'Industrie cible le batik comme produit de mode mondial. Voici le journal complet. Le gouvernement indonésien encourage l'instauration de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient au milieu de la situation actuelle. C'est ce qu'a affirmé la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi après sa rencontre avec le président jeudi au palais présidentiel à Jakarta. Elle a déclaré qu'elle avait en communiqué avec ses homologues des pays au Moyen-Orient et du Golfe. Dans cette communication, la ministre Retno a affirmé que l'Indonésie a exprimé son inquiétude pour la situation régionale et encourage le dialogue et la réconciliation entre les pays en conflit. En outre, l'Indonésie a également déterminé l'importance de l'unité entre les pays du Moyen-Orient, en particulier dans l'élan du Ramadan. Selon la ministre, le gouvernement indonésien s'est déclaré sa disposition à fournir une assistance pour résoudre le conflit qui s'est produit. Le point est que l'Indonésie a déclaré son observation et ses préoccupations liées à la situation actuelle. Deuxièmement, nous avons demandé à toutes les parties de bloquer en donnant la priorité au dialogue et à la réconciliation. Troisièmement, nous avons demandé à toutes les parties de s'abstenir pour prioriser à Ukhuwah Islamiyah l'unité, en particulier dans les langues du Ramadan. Quatrièmement, nous oublions jamais de mentionner que l'Indonésie est prête à l'aider si nécessaire. Pendant ce temps, en ce qui concerne la sécurité des citoyens indonésiens au Qatar, la ministre Retno Marsudi a déclaré que le représentant indonésien à Doha a formé des groupes de travail spéciaux pour accroître la protection de plus de 29 000 personnes au Qatar. En plus de l'ajustement de l'horaire de vol de certaines compagnies aériennes du Qatar qui a affecté l'OMRA de certains Indonésiens, la ministre Retno a déclaré que le gouvernement a coopéré avec plusieurs parties pour assurer la sécurité de ces Indonésiens. Le Centre de recherche océanographique, l'Institut indonésien des sciences, LIPI, a publié la dernière donnée du statut de la condition d'état des récifs coralliens en Indonésie en 2017. Les résultats de la vérification et l'analyse des données provenant de 108 emplacements et 1064 stations à travers les eaux de l'Indonésie ont indiqué que 6,39% des récifs coralliens sont encore en très bon état, à 23,40% bon état, de 23,40%, la condition suffisante à 35,06% et mauvais état de 35,15%. La mesure de ces conditions est basée sur le pourcentage de couverture de coraux vivants, ce qui est très bonne catégorie avec la couverture de 76 à 100%. La bonne catégorie, couverture de 51 à 75%. La catégorie AC avec la couverture de 26 à 50%. Et la mauvaise catégorie avec la couverture de 0 à 25%. Le chef du Centre de recherche océanographique de l'Institut indonésien des sciences LIPI, Dhir Hamsyah, a déclaré que les données sur l'état des récifs coralliens pouvaient être utilisées par les différents partis pour la formulation des politiques, la réhabilitation, la gestion et la conservation des récifs coralliens nationaux et a donné des prévisions de l'état dans l'avenir. Cela a été dit par Dhir Hamsyah dans l'explication de l'état des récifs coralliens et les herbiers marins indonésiens de 2017 qui a eu lieu à LIPI Jakarta mercredi. Cette activité vise à présenter la dernière condition de l'écosystème herbier et des récifs coralliens en 2017. L'événement est fait en 2017, mais le résultat est le dernier état en 2016. Cette activité fait partie de la responsabilité de l'IPI comme l'autorité de la science. Comme l'autorité scientifique, l'IPI joue le rôle important en tant que fournisseur de données et d'informations sur le statut de la condition des organismes vivants et les écosystèmes terrestres et maritimes de l'Indonésie. Le chercheur du Centre de recherche océanographique LIPI, Suarsono, a dit que la répartition des récifs coralliens indonésiens était trouvée de Sabang jusqu'à Merauke, avec la répartition la plus élevée et dans les eaux centrales et orientales de l'Indonésie. Cette zone comprend les eaux de Sulawesi, la Papouasie, Nusa Tenggara, les Moluques et devient le centre du triangle de la diversité corail du monde. L'Association des étudiants indonésiens en Malaisie participeront au 9e symposium de l'Association des étudiants indonésiens du monde qui aura lieu du 23 au 27 juillet 2017 dans la ville de Warwick, en Angleterre. Le président de PPI de la Malaisie, Zul Fadli, a déclaré mercredi à RRI à Kuala Lumpur que le thème soulevé dans le symposium était la numérisation.
Kita akan banyak berbicara masalah.
Nous allons beaucoup parler sur la numérisation, la façon de construire une nation à travers les rôles des jeunes. Nous allons maximiser cette question dans le symposium. En plus du thème de la numérisation, chaque association des étudiants indonésiens de tous les pays vont exprimer des opinions sur la question. PPI en Malaisie soulèvera la question de l'importance de la jeunesse de jouer le rôle pour assurer le succès des programmes gouvernementaux, entre autres dans le domaine du tourisme et de la culture. Toute l'association des étudiants indonésiens de 51 pays participeront à ce symposium. La politique maritime indonésienne sera lancée lors de la conférence mondiale sur l'océan qui se tiendra au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York aux États-Unis. Le ministre coordinateur des Affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, dans une déclaration écrite à Jakarta, a déclaré mercredi que lancement de la politique de Louisiane de l'Indonésie devient l'un des principaux programmes posés lors de la réunion plénière avec 21 ministres de différents pays. Selon lui, la politique maritime de l'Indonésie est significative parce que le gouvernement indonésien est conscient de la grande responsabilité qu'il mène pour maintenir la santé de la mer et de ses eaux. Il considère que le commerce mondial dépend plus des eaux indonésiennes en raison de son grand potentiel. En outre, l'Indonésie possède les plus grands mangroves et prairies dans le monde et détient 17% des récifs coralliens du monde. Le gouvernement de l'Indonésie a également élaboré un plan d'action nationale pour lutter contre les déchets plastiques dans l'océan, notamment le développement des biocombustibles, la gestion des déchets d'être l'énergie, le recyclage des déchets et le renforcement des capacités pour les gouvernements régionaux pour la gestion des déchets et leur permettant de collaborer au niveau international dans la gestion des déchets. Le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartanto, cible le batik d'être la mode globale qui est développée par l'industrie de la mode dans le monde entier. À cet égard, le ministère de l'Industrie s'efforce toujours à développer l'industrie batik nationale avec une variété de programmes. Ces programmes sont l'amélioration des ressources humaines, le développement de la qualité des produits et la standardisation. C'est ce qu'a affirmé Erlangga Hartanto. Le ministre a ajouté les installations de machines, la promotion et l'exposition et donné aux artisans et aux entrepreneurs d'améliorer la compétitivité et la capacité de leur production. Pour améliorer l'accès au marché, le ministère de l'Industrie a également un programme e-smart des PME. Chers amis, c'était le bulletin d'information.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant, nous vous présentons le commentaire et pour le titre, l'Iran est attaqué par la terreur. Deux attentats terroristes ont frappé la capitale iranienne, Téhéran, mercredi le 7 juin. Une attaque ciblée au bâtiment du Parlement et d'autres attentats suicides à la tombe d'Ayatollah Khomeini. Cette attaque sacrifie la vie d'au moins 12 personnes. Le vice-président du Conseil suprême de sécurité de l'Iran, Reza Seifollahi, a déclaré que les attaquants sont des citoyens iraniens qui ont rejoint le groupe ISIS. Le groupe terroriste ISIS a revendiqué cette attaque et menace la prochaine attaque aux chiites en Iran. Dans son affirmation aux médias sociaux, le président des États-Unis, Donald Trump, a transmis son sympathie et a déclaré que la tragédie de Téhéran comme le fruit de ses propres actions. Cette déclaration a provoqué une forte réaction de l'Iran aux États-Unis. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a affirmé que la déclaration de Trump sur l'attaque à Téhéran était douloureuse. Javad a dit que l'Iran faisait face à des attaques par les clients américains. L'hostilité de Trump à l'Iran a été faite depuis la dernière campagne. La cible de Trump est d'annuler l'accord en 2015 qui offre la possibilité à l'Iran d'utiliser le nucléaire et d'empêcher le développement d'armes nucléaires qui est échangé avec la levée des sanctions. Garde révolutionnaire iranienne a accusé l'Arabie Saoudite et les États-Unis qui sont impliqués dans cette attaque. Leur indication, l'incident est survenu après que Donald Trump ait rencontré les dirigeants islamiques en Arabie Saoudite. Les deux pays ont nié directement ces allégations. Actuellement, il semble qu'aucun endroit est sûr des attaques terroristes. Nous ne sommes pas seulement tout simplement appelés à l'unité contre le terrorisme. Cette fois-ci, nous agissons ensemble de manière très décisive contre les groupes qui ne soucient plus de l'humanité dans le bout d'un seul groupe. Chers auditeurs, c'est le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous raconter dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie de l'édition de 9 juin. On va commencer le 9 juin 1905. Albert Einstein a publié la théorie de la physique quantique dans la revue Annalen der Physik. Albert Einstein, né le 14 mars 1879 à Ulm-Württemberg, est mort le 18 avril 1955 à Princeton, New Jersey, est un physicien théoricien qui fut successivement allemand, apatride 1896, suisse 1901 et sous la double nationalité helvético-américaine 1940. Il publie sa théorie de la relativité restreinte en 1905 et sa théorie de la gravitation, dite relativité générale, en 1915. Il contribue largement au développement de la mécanique quantique et de la cosmologie et reçoit le prix Nobel de physique de 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique. Son travail est notamment connu du grand public pour l'équation E égale MC de qui établit une équivalence entre les matières de l'énergie d'un système. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire et sa renommée dépasse largement le milieu scientifique. Il est personnalité du XXe siècle selon l'hebdomadaire Time. On continue le 9 juin 1923, coup d'État en Bulgarie. Le 9 juin 1923 est marqué en Bulgarie par un coup d'État orchestré par la Ligue militaire du général Ivan Valkov qui renverse le régime agrarien d'Alexandre Stamboliski. Alexandre Sankov prend alors les rênes d'un gouvernement conservateur tandis qu'Alexandre Stamboliski en vacances pendant le coup d'État et capturé et assassiné le 14 juin. Trois mois plus tard, l'insurrection du 23 septembre 1923 tentera de renverser à son tour le gouvernement d'Alexandre Sankov. Chers auditeurs, c'était notre programme aujourd'hui dans l'histoire, l'édition 9 juin de La Voix d'Indonésie à Jakarta. À demain.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel du titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, voici donc la mise au point et pour le titre, le gouvernement a formé l'unité de travail présidentielle sur la mise en œuvre de l'idéologie de l'État de Pancasila ou KPPIP. Le président Joko Widodo a inauguré les figures nationales pour orienter l'unité de travail présidentielle sur la mise en œuvre de l'idéologie de l'État de Pancasila ou KPPIP au Palais d'État Jakarta mercredi le 7 juin 2017. L'inauguration de ces figures nationales est basée sur le décret présidentiel le 31 mai 2017, numéro 31M en 2017. Ces figures nationales sont Megawati Soekarnoputri, Tri Sutrisno, Mahfud MD, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ma'ruf Amin, Said Akhil Siraj, Andreas Ananguru Iwangu, Wisnu Bawa Tenaya et Sudamek. En même temps, avec cette inauguration, le président a inauguré également Yudi Latif comme chef UKP-PIP. L'unité de travail a pour tâche d'aider le président à établir l'orientation politique de l'idéologie de Pancasila et à synchroniser la coordination et le contrôle du programme d'idéologie Pancasila entièrement et durable. UKP-PIP sert également pour surveiller, évaluer et proposer des mesures stratégiques visant à faciliter la mise en œuvre de la formation de l'idéologie de Pancasila et mener la coopération et les relations interorganisations dans la mise en œuvre de l'idéologie de Pancasila. Le chef UKP-PIP, Yudi Latif, après son inauguration, a affirmé que l'éducation de Pancasila dans les écoles devrait être renforcée en impliquant les gens. Selon lui, cela est adapté à l'esprit de coopération mutuelle encouragée par Pancasila qui a déclaré que tous les éléments de la nation ont la responsabilité de renforcer la valeur de Pancasila dans la société.
Jalan terbaik adalah melibatkan peran serta komunitas. Kembali ke semangat Pancasila itu gotong royong. Jadi ke depan
la meilleure façon est d'impliquer les gens à pour revenir à l'esprit de Pancasila, gotong royong ou la coopération mutuelle. Ainsi, à l'avenir, l'État ne facilite que et il faut qu'il soit déplacé avec des bénévoles de diverses communautés. Je l'ai nommé berger communautaire. Ainsi, les chefs religieux, les artistes, les réalisateurs, les journalistes, les chefs traditionnels seront rassemblés dans une seule collectivité pour avoir la responsabilité de prendre soin de Pancasila. Parce que Bung Karno a déclaré que Pancasila provient de la communauté. Par conséquent, si l'État a des problèmes, il doit demander de l'aide à la communauté. Yudi Latif encourage également l'implication des hommes d'affaires indonésiens à renforcer Pancasila parmi les gens. Selon lui, ils deviendront un pont parmi les gens afin de réduire le nombre des cadres. Pendant ce temps, le président du Parlement, Setia Novanto, est optimiste UKP-PIP peut travailler bien et efficace parce que UKP-PIP se compose de figures compétentes et ont montré leur rôle dans le développement et la conservation de l'idéologie de Pancasila. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
Le gouvernement indonésien encourage l'instauration de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient au milieu de la situation actuelle. C'est ce qu'a affirmé la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, après sa rencontre avec le président jeudi au palais présidentiel à Jakarta. Elle a déclaré qu'elle avait en communiqué avec ses homologues des pays au Moyen-Orient et du Golfe. Dans cette communication, la ministre Retno a affirmé que l'Indonésie a exprimé son inquiétude pour la situation régionale et encourage le dialogue et la réconciliation entre les pays en conflit. En outre, l'Indonésie a également déterminé l'importance de l'unité entre les pays du Moyen-Orient, en particulier dans l'élan du Ramadan. Selon le ministre, le gouvernement indonésien s'est déclaré sa disposition à fournir une assistance pour résoudre le conflit qui s'est produit. Le point est que l'Indonésie a déclaré son observation et ses préoccupations liées à la situation actuelle. Deuxièmement, nous avons demandé à toutes les parties de bloquer en donnant la priorité au dialogue et à la réconciliation. Troisièmement, nous avons demandé à toutes les parties de s'abstenir pour prioriser à Ukhuwa Islamia l'unité, en particulier dans les langues du Ramadan. Quatrièmement, nous oublions jamais de mentionner que l'Indonésie est prête à l'aider si nécessaire. Pendant ce temps, en ce qui concerne la sécurité des citoyens indonésiens au Qatar, la ministre Retno Marsudi a déclaré que le représentant indonésien à Doha a formé des groupes de travail spéciaux pour accroître la protection de plus de 29 000 personnes au Qatar. En plus de l'ajustement de l'horaire de vol de certaines compagnies aériennes du Qatar qui a affecté l'OMRA de certains Indonésiens, la ministre Retno a déclaré que le gouvernement a coopéré avec plusieurs parties pour assurer la sécurité de ces Indonésiens. Le Centre de recherche océanographique, l'Institut indonésien des sciences, l'IPI, a publié la dernière donnée du statut de la condition d'état des récifs coralliens en Indonésie en 2017. Les résultats de la vérification et l'analyse des données provenant de 108 emplacements et 1064 stations à travers les eaux de l'Indonésie ont indiqué que 6,39% des récifs coralliens sont encore en très bon état, à 23,40% bon état, de 23,40%, la condition suffisante à 35,06% et mauvais état de 35,15%. La mesure de ces conditions est basée sur le pourcentage de couverture de coraux vivants, ce qui est très bonne catégorie avec la couverture de 76 à 100%. La bonne catégorie, couverture de 51 à 75%, la catégorie AC avec la couverture de 26 à 50% et la mauvaise catégorie avec la couverture de 0 à 25%. Le chef du Centre de recherche océanographique de l'Institut indonésien des sciences LIPI, Dirham Shah, a déclaré que les données sur l'état des récifs coralliens pouvaient être utilisées par les différents parties pour la formulation des politiques, la réhabilitation, la gestion et la conservation des récifs coralliens nationaux et a donné des prévisions de l'état dans l'avenir. Cela a été dit par Dirham Shah dans l'explication de l'état des récifs coralliens et les herbiers marins indonésiens de 2017 qui a eu lieu à LIPI Jakarta mercredi. Cette activité vise à présenter la dernière condition de l'écosystème herbier et des récifs coralliens en 2017. L'événement est fait en 2017, mais le résultat est le dernier état en 2016. Cette activité fait partie de la responsabilité de l'IPI comme l'autorité de la science. Comme l'autorité scientifique, l'IPI joue le rôle important en tant que fournisseur de données et d'informations sur le statut de la condition des organismes vivants et les écosystèmes terrestres et maritimes de l'Indonésie. Le chercheur du Centre de recherche océanographique LIPI, Suarsono, a dit que la répartition des récifs coralliens indonésiens était trouvée de Sabang jusqu'à Merauke, avec la répartition la plus élevée et dans les eaux centrales et orientales de l'Indonésie. Cette zone comprend les eaux de Sulawesi, la Papouasie, Nusa Tenggara, les Moluques et devient le centre du triangle de la diversité corail du monde. L'Association des étudiants indonésiens en Malaisie participeront au 9e symposium de l'Association des étudiants indonésiens du monde qui aura lieu du 23 au 27 juillet 2017 dans la ville de Warwick, en Angleterre. Le président de PPI de la Malaisie, Zul Fadli, a déclaré mercredi à RRI à Kuala Lumpur que le thème soulevé dans le symposium était la numérisation.
Kita akan banyak berbicara masalah.
Nous allons beaucoup parler sur la numérisation, la façon de construire une nation à travers les rôles des jeunes. Nous allons maximiser cette question dans le symposium. En plus du thème de la numérisation, chaque association des étudiants indonésiens de tous les pays vont exprimer des opinions sur la question. PPI en Malaisie soulèvera la question de l'importance de la jeunesse de jouer le rôle pour assurer le succès des programmes gouvernementaux, entre autres dans le domaine du tourisme et de la culture. Toute l'association des étudiants indonésiens de 51 pays participeront à ce symposium. La politique maritime indonésienne sera lancée lors de la conférence mondiale sur l'océan qui se tiendra au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York aux États-Unis. Le ministre coordinateur des Affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, dans une déclaration écrite à Jakarta, a déclaré mercredi que le lancement de la politique de l'océan de l'Indonésie devient l'un des principaux programmes posés lors de la réunion plénière avec 21 ministres de différents pays. Selon lui, la politique maritime de l'Indonésie est significative parce que le gouvernement indonésien est conscient de la grande responsabilité qu'il mène pour maintenir la santé de la mer et de ses eaux. Il considère que le commerce mondial dépend plus des eaux indonésiennes en raison de son grand potentiel. En outre, l'Indonésie possède les plus grands mangroves et prairies dans le monde et détient 17% des récifs coralliens du monde. Le gouvernement de l'Indonésie a également élaboré un plan d'action national pour lutter contre les déchets plastiques dans l'océan, notamment le développement des biocombustibles, la gestion des déchets d'être l'énergie, le recyclage des déchets et le renforcement des capacités pour les gouvernements régionaux pour la gestion des déchets et leur permettant de collaborer au niveau international dans la gestion des déchets. Le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartanto, cible le batik d'être la mode globale qui est développée par l'industrie de la mode dans le monde entier. À cet égard, le ministère de l'Industrie s'efforce toujours à développer l'industrie batik nationale avec une variété de programmes. Ces programmes sont l'amélioration des ressources humaines, le développement de la qualité des produits et la standardisation. C'est ce qu'a affirmé Erlangga Hartanto. Le ministre a ajouté les installations de machines, la promotion et l'exposition est donnée aux artisans et aux entrepreneurs d'améliorer la compétitivité et la capacité de leur production. Pour améliorer l'accès au marché, le ministère de l'Industrie a également un programme e-smart des PME. Chers amis, c'était le bulletin d'information.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java: Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Ce soir, nous vous introduisons la tradition Nyorok de la province Jakarta, soit Betawi. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la Voix d'Indonésie. Un certain nombre de régions en Indonésie a une tradition unique en accueillant le mois sacré du Ramadan. L'un d'entre eux est une tradition Nyorok de Betawi ou Jakarta. La tradition Nyorok est celle de distribuer des colis alimentaires aux familles les plus anciennes, comme le père, la mère, les beaux-parents, oncles, grand-mères et grands-pères. L'habitude d'envoyer ce paquet, il y a encore ceux qui l'exécutent, bien que le contenu d'une parcelle a changé avec le progrès du temps. Ces traditions se perpétuent en plus d'accueillir le Ramadan, également au moment avant et après le mariage. Cette tradition vise à toujours rester en contact et renforcer la parenté. Dans la tradition Nyorok, d'habitude on porte la nourriture typique Betawi comme sayur gabus pucung, soit les légumes de liège pucung. Ce repas à base de poisson liège qui est frit et cuit avec diverses épices comme la noisette, le piment rouge, le gingembre et le curcuma. Maintenant, on porte des aliments crus tels que la viande du buffle, le chano, le café, le lait, le sucre, le sirop et ainsi de suite. La tradition Nyorok fait habituellement par les jeunes aux plus vieilles, en général accompagné d'un discours demandant la bénédiction et lui demandant à donner le bon fonctionnement du jeûne. En plus d'être cru par la communauté Betawi comme un signe pour avertir les uns des autres si le mois sacré du Ramadan arrive bientôt, la tradition Nyorok peut aussi resserrer silaturahmi, soit l'hospitalité parmi les voisins et les familles. Habituellement, on fait aussi la tradition de manger ensemble à la maison d'un aîné de la famille avec l'intention de se rendre visite. Mais maintenant, cette tradition a presque disparu. Comme la plupart des Betawi sont de plus en plus marginalisés dans des banlieues comme Tangerang, Bogor, Depok et Bekasi. Avec la propagation de la communauté Betawi au banlieue Jakarta, puis la mise en œuvre de la tradition Nyorok suit également à la périphérie de la capitale. En fait, l'existence de la tradition Nyorok porte une signification particulière pour la société en général parce que c'est en fait un moyen d'hospitalité et resserrer la fraternité entre les musulmans, en particulier ceux liés à la parenté. Ensuite, marqué par la fourniture de colis alimentaires qui devraient créer le bonheur pour le destinataire. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur et en pour titre trois endroits qui deviennent préférés pour sacher une collation pour l'iftar. Les musulmans indonésiens ont des activités amusantes pendant le Ramadan en plus d'aller à la mosquée. La chasse aux collations pour l'iftar est l'une d'entre elles. Pendant le Ramadan, il y a de nombreux étals qui vendent des collations. Dans les grandes villes, les étals pendant le Ramadan sont devenus tendances. À Semarang, Java Central, il y a trois endroits qui deviennent préférés pour chasser une collation pour l'iftar. Le potentiel de Semarang comme capitale de la province de Java Central n'est pas seulement un objet touristique, mais aussi la sagesse locale, comme le bâtiment historique et religieux. Semarang a aussi une aire de jeu, une merveille naturelle et une cuisine. Pendant le Ramadan, il y a un marché spécial qui vend des collations pour l'iftar. Si vous avez du temps et que vous utilisez un véhicule à moteur pour chasser des collations, ne paniquez pas. Vous pouvez venir à la rue Pahlawan, Semarang, parce qu'il y a un endroit unique pour chasser une collation en conduisant le système trou. Vous n'avez pas besoin de trouver un parking parce que les vendeurs viendront à vous. Choisissez simplement ce que vous aimez, payez et enlevez. Pendant le Ramadan, la mosquée de Kauman à Semarang installe une tente qui vend également de nombreux plats tels que le kikolang, le jus et beaucoup d'autres. Les gens de Semarang l'appellent le Semarangan. Le troisième magasin de casse-croûte est situé à Sendang Mulyo. Les activités de ce marché le matin sont comme un autre marché traditionnel en Indonésie. Pendant le Ramadan, Ce marché est bondé l'après-midi avec des vendeurs de collations pour les femmes. Serviteurs, c'est dans l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel genre de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Et cette fois, nous avons déjà sélectionné des chansons de dangdut chantées par Talita Latif. On écoutera la première chanson intitulée « Klepek, klepek ». C'était la première chanson de Dangdut, chantée par Talita Latif. Chers amis, la musique affecte souvent l'humeur de l'auditeur, bien que parfois l'humeur des auditeurs n'aime pas la chanson qu'il entend. La spécificité des chansons de Dangdut font souvent l'auditeur à venir danser au rythme de la musique. La musique Dangdut est très proche du peuple de l'Indonésie. La chanteuse pop qui a chanté le Dangdut comme Talita Latif, après avoir sorti le single pop en 2009, a essayé sa capacité à chanter des chansons de Dangdut. Avant de devenir une chanteuse de Dangdut, elle était une modèle et aussi une artiste de film. En 2003, elle a joué dans la publicité de plusieurs produits. En 2009, la femme née en 1988 a également lancé une chanson intitulée Awas. Bon, chers amis, écoutez maintenant les deux dernières chansons de Talita Latif intitulées Di Kritik Cinta. Merci à tous et à bientôt.
Tubuhku
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.